Bonsoir à tous, chers auditeurs. Bienvenue dans ce numéro de rentrée des chroniques de la vieille Europe. Alors, après avoir consacré deux émissions d'été à la littérature, nous allons bien sûr revenir à une actualité plus chaude grâce, entre autres, à Philippe Christel. Bonsoir, Philippe.
Bonsoir.
Les vacances sont bien passées, mon cher Philippe. Vous êtes en pleine forme.
Excellemment.
Autre fidèle de notre émission, celui qu'on appelle l'homme de l'ombre, celui qui nous fait venir des invités exceptionnels, Lucien Valdès. Bonsoir, Lucien.
Bonsoir.
J'espère que vous nous avez préparé une année riche en invités. Quelques pistes pour nos auditeurs ou c'est un secret défense
Non. J'ai quelques ministres dans la manche, deux ou trois hommes politiques internationaux de premier plan, des chercheurs en stratégie, des diplomates, des journalistes. Je pense que cette nouvelle saison s'annonce pétillante et même passionnante, car l'émission chronique de la vieille Europe est d'ores et déjà reconnue, au-delà des clivages partisans, droite-gauche. Et c'est ce qui fait sa force. Et je pense que de commencer la première émission de la rentrée à définir le mot guerre.
On va parler de la guerre, oui.
Va nous permettre ensuite d'y voir plus clair tout au long de l'année avec nos invités successifs, français et bien entendu étrangers. On est déjà sur plusieurs pistes. Donc voilà.
Ok. Bon, pour les ministres, de toute façon, il y en a certains qui, dès le mois de novembre, risquent de ne pas avoir grand-chose à faire. On va pouvoir peut-être les inviter. Donc effectivement, le sujet de ce soir, c'est la guerre. Est-elle nécessaire dans la nature de l'homme? A-t-elle toujours existé? Pourrait-on vivre sans la guerre? Utopie des mouvements pacifistes. Alors pour en parler, nous allons avoir le plaisir d'avoir par téléphone Jean-François Gauthier, docteur en philosophie et essayiste, qui a collaboré au dernier numéro de Crisis consacré à la guerre. Numéro de Crisis qui va nous être présenté par Lucien Valdès pendant une petite minute, le temps qu'on ait Jean-François Gauthier. Je crois qu'il y a deux volumes et ils sont très très riches en articles.
Il me semble que ces deux numéros de Crisis, et je pèse mes mots sur la guerre, qui viennent donc de paraître, sont fondateurs. Donc nous allons bien sûr les commenter aujourd'hui avec notre invité Jean-François Gauthier, vous l'avez dit. Mais ils vont aussi nous servir tout au long de l'année puisque certains noms ne dépayseront pas nos auditeurs. Je pense en premier lieu au professeur Hervé Couteau-Bégari, qu'on ne présente plus sur Radio Courtoisie, ou encore à Yves-Marie Lolland, le président, entre autres, de l'activité de l'Institut géopolitique des populations, mais aussi à Georges-Henri Brisset-Desvallon, Jacques Marlot, Philippe Forger, que nous avons déjà reçus dans notre émission. Je pense qu'avec ces deux numéros, la revue dirigée par Alain de Benoît depuis plus de 20 ans s'impose une fois encore comme une référence incontournable.
Merci Lucien. Jean-François Gauthier, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être sur l'antenne de Radio Courtoisie. Vous avez consacré dans la revue Crisis présentée par Lucien Valdès un article en parlant du polémos d'Héraclite. Alors on a souvent considéré Héraclite comme l'ancêtre du bienfait des violences engendrant du nouveau, de la mort comme accoucheuse de vie. Alors pour caricaturer Héraclite, serait-il le philosophe de la violence?
Non, Héraclite est un philosophe du constat. Il constate simplement que dans toute chose, il y a des oppositions, et dans toute société, il y a des oppositions. Cette opposition s'appelle polémos. Et polémos ne veut pas dire la guerre. Polémos, c'est une opposition qui est civilisatrice, dans la mesure où elle permet, dans la reconnaissance des différences, de reconnaître la pluralité des valeurs. Et ça, c'est très important. Et polémos ne devient guerre que quand il n'y a plus de traitement pacifié du conflit. Mais le conflit en lui-même fait partie de la nature des choses et de la nature des sociétés.
Alors, si on devait donner pas une définition, je veux dire, de polémos, mais on pourrait peut-être citer, vous donner un exemple qui est assez judicieux. C'est on a une tendance à voir entre la guerre l'opposition de la paix universelle. Et alors là, vous citez Homer, qui lui a appelé de ses voeux à la disparition de tout combat entre les hommes et entre les dieux. Et alors pour Héraclite, cette idée est absurde, c'est un non-sens.
Ben, c'est un non-sens parce que polémos contient ou rend nécessaire ou inclut la compréhension de son exact opposé qui est Irénée. Qui est la paix, mais la paix n'a pas de signification sans la guerre, de même que le froid n'a pas de signification sans le chaud, le jour sans la nuit. Ces couples d'opposés sont constitutifs de notre perception même de la réalité, soit de notre vie collective, soit des observations que nous pouvons faire de la nature par ailleurs.
Alors, la notion la plus intéressante et qui va nous ramener, disons, à la guerre moderne, c'est la notion de démesure. Dans la guerre, elle est déjà constatée dans la pensée grecque et ils la considèrent comme un véritable danger. Qu'est-ce que la démesure dans la guerre, dans le polémos, si vous voulez?
La démesure dans la guerre, enfin dans cette forme particulière de polémos qu'est la guerre, c'est la guerre qui se prend elle-même pour fin et qui vise l'élimination radicale de l'ennemi. Mais la guerre qui vise l'élimination radicale de l'ennemi, c'est une guerre qui élimine son contraire, c'est-à-dire qui élimine la paix et qui élimine surtout, et ça avait été remarqué par Deleuze, qui élimine surtout la possibilité de l'accord ou la possibilité du traité. C'est une erreur qui a été commise dans le traité de Versailles en 1919, par exemple. Le traité de Versailles a humilié l'Allemagne et lui a imposé des réparations qui étaient telles que, bon, tout calcul fait, je crois que la fin des réparations devait atteindre 2030 ou 2035, ce qui était complètement absurde. Et en éliminant toute possibilité de paix véritable, c'est-à-dire construite, eh bien, on s'affaiblissait soi-même. Mais ce qui s'est passé en 1939 a montré que, effectivement, on ne peut pas fabriquer une machine de guerre pour détruire l'ennemi, parce que sinon on se détruit soi-même d'une certaine manière.
Cette notion de polémos va avoir des règles chez les Grecs. Ils vont la, un peu comme presque un jeu, comme un sport.
Oui, ils vont la codifier.
Ah ben, et les codifier, oui, mais pas comme un jeu, pas comme un jeu d'enfant. C'est-à-dire que les limites sont celles de l'hubris, c'est-à-dire la démesure. On ne préfère pas la paix à tout prix. Si la guerre est nécessaire, il faut passer par là. Et elle est nécessaire comme dans toute nécessité naturelle. C'est-à-dire que si le polémos est arrivé à un point tel qu'on ne peut pas en trouver un règlement par accord des parties, eh bien c'est la lutte qui va déboucher sur un moment où il sera nécessaire de trouver un accord entre les parties. Et c'est la direction vers cet accord comme objectif même de la lutte qui devient la règle générale chez les Grecs. Il y a une expression française qui a été utilisée au XVIIe siècle, qui est la joute. La joute, c'est un terme qui vient du latin justus. Et Littré avait relevé cela en disant « justa pugna », c'est le combat régulier. Et la guerre n'a de signification, non pas dans l'élimination de l'ennemi, mais beaucoup plus simplement dans le fait qu'une signification de cette guerre va émerger quand l'accord lui-même va devenir possible. Alors évidemment, dans l'accord, il se fait plus dans l'intérêt du vainqueur que dans l'intérêt du vaincu, mais en même temps, il ne peut pas éliminer le vaincu, sinon ça n'est pas une guerre, c'est une machine de guerre qui ne vise qu'à détruire et qui n'obtient finalement pas de résultats sur le long terme. Là, les exemples historiques, malheureusement, on en a quelques douzaines.
Nous avions reçu, il y a maintenant plus de 2 ans, le journaliste Philippe Grasset, on l'avait reçu pour son livre « Les âmes de Verdun », et il nous expliquait que, contrairement à l'idée reçue, en tout cas c'était sa thèse, que Verdun n'était pas une boucherie, mais c'était la victoire de l'homme sur la machine. La dernière victoire contre cette fameuse démesure qui deviendra ensuite la guerre totale. Vous pensez que 14-18, ce fut un tournant?
Ça a été un tournant, c'est-à-dire que la thèse de Grasset est à la fois juste et fausse si on la prend du point de vue de Junger, qui a laissé probablement l'un des plus beaux témoignages sur cette guerre de 14. Il y a effectivement une manière de construire sa propre liberté quand on a vu le feu des machines, des machines de guerre, bien sûr. Mais en même temps, il y a eu autre chose à quoi Junger n'avait pas été confronté directement. Et par exemple, l'hypérite, quand vous recevez dans une tranchée quelques doses d'hypérite, bon là, la victoire du courage n'existe plus, l'élimination est certaine, et il y a quelque chose là qui ressemble à la boucherie. Effectivement, donc il y a eu ces deux aspects durant la guerre de 14.
Donc nous avons vu le danger, enfin vous nous avez expliqué le danger de l'humiliation de l'adversaire qui amène à sa propre perte. Mais la guerre elle va encore changer de nature au XXe siècle avec le début des guerres coloniales. Et là vous il y a une notion que vous amenez dans ces guerres coloniales et vous citez Dumézil, c'est l'opinion publique, c'est le conflit de la première fonction et de la troisième fonction. Gagner une guerre sur le plan militaire ne suffit plus à ce moment-là.
Oui, mais il est pratiquement évident pour les gens versés dans la chose militaire que les moyens qui ont été dispensés par les États-Unis, notamment le Vietnam, étaient des moyens qui étaient propres à leur assurer la victoire définitive et en même temps la plus grande opposition qu'a rencontrée cette guerre. Eh bien, ce n'était pas au Vietnam qu'elle a rencontré, c'est aux États-Unis même et notamment parmi les mouvements d'anciens combattants, parce que pour eux cette guerre n'avait plus de signification. Et là, il y a une opposition véritable entre l'opinion pour laquelle une guerre qui sacrifie les plus jeunes et les plus entreprenants, souvent d'une nouvelle génération, n'a pas de signification parce qu'elle ne concerne pas le pays lui-même. C'est-à-dire, c'est une guerre de techniciens, c'est une guerre éventuellement d'intérêt stratégique abstrait, mais ça ne concerne pas le pays. Et là, il y a un moment où, effectivement, l'histoire l'a montré, il y a un recul du politique qui va passer un traité de paix. Bon, ça a été la négociation entre Kissinger et le Ducto qui était motivée par le fait que l'opinion américaine ne supportait plus cette guerre.
Est-ce que c'est nouveau ou est-ce qu'il y a, déjà une opinion publique à l'époque de la Grèce antique? Est-ce qu'on a des exemples?
Il y a toujours une opinion publique qui est active. Il y a une opinion publique qui a été active pendant les guerres napoléoniennes. Il y a une opinion publique qui a été active pendant les guerres de Louis XIV. Au fond, l'opinion publique n'est très active, ou plutôt l'activité de l'opinion publique est à la mesure du nombre de citoyens engagés. Sous Louis XIV, le nombre de citoyens engagés était relativement faible, ce qui veut dire que l'opinion comptait peu. Lorsqu'on passe après la Révolution à la conscription nationale, il est évident que là, l'opinion prend un autre poids. Mais bon, l'opinion est elle aussi, à prendre en compte dans toutes ses composantes, c'est-à-dire que pendant la guerre de 14, par exemple, qui était une guerre particulièrement meurtrière, l'opinion publique était en faveur de cette guerre, n'est-ce pas ? En faveur d'une guerre contre ceux qu'on appelait les Boches. C'est-à-dire qu'il y avait un patriotisme qui était assez fort, assez virulent, et tel que on défendait d'une part son territoire à soi, et d'autre part, le degré de l'inimitié était très important. Alors, dans une guerre de type colonial comme celle que les Américains ont menée au Vietnam, le territoire lui-même n'était absolument pas en danger ni menacé. La seule fois où les Américains ont mené une guerre, c'était leur guerre de libération, et après ils n'ont plus été menacés par personne, au moins sur leur propre terre. Et sacrifier des concitoyens, parmi lesquels tout le monde a un cousin, un neveu, à des guerres lointaines, dont l'intérêt stratégique est mal compris ou pas compris du tout, évidemment, là ça donne beaucoup, beaucoup de poids à l'opinion.
Alors, ce qui est frappant en vous lisant, c'est le parallèle qu'on pourrait faire avec les conflits actuels en Irak ou en Afghanistan. Vous paraphrasez Clausewitz en écrivant « La paix et la continuation de la guerre par d'autres moyens politiques ». Pouvez-vous nous expliquer cette notion-là ?
Alors, l'adage de Clausewitz paraît tout à fait exact, mais il peut être retourné comme souvent quand on généralise un peu trop. La paix que pourrait obtenir ou construire les États-Unis avec les différentes forces afghanes serait un moyen pour eux d'abord de se dégager du terrain et de reconstruire leur polémos d'une autre manière qui serait tactiquement ou politiquement beaucoup plus efficace.
Alors, vous donnez un exemple sur le Japon. Pouvez-vous nous en parler sur la Seconde Guerre mondiale? Il y a eu une décision qui a été très importante, qui a été prise par les politiques américains de la Maison Blanche. Je pense à Henry Stephenson.
C'est-à-dire que dans le projet Manhattan, qui était dirigé par le général Groves, la première ville sur la liste des villes japonaises qui devaient être bombardées avec la première bombe atomique, la première ville, c'était Kyoto. Et le secrétaire d'État de Truman, qui avait pris la succession de Roosevelt, Henry Stimson, a mis sa propre fonction dans la balance en disant « si Kyoto est bombardé, je ne suis plus ce secrétaire d'État des États-Unis ». Et c'était une décision importante à prendre parce que la doctrine de Stimson, c'était quelque chose qui nous paraît à distance relativement simple et qui, dans la chaleur ou l'agitation de la guerre, ne devait pas être simple à faire comprendre. Il voulait réserver une possibilité de paix, c'est-à-dire que pour lui, si on détruit trop, la paix est impossible, et détruire Kyoto, c'était détruire une tradition tout à la fois politique et religieuse au Japon, et c'était ne plus se faire comprendre des Japonais. Et pour lui, c'était absolument impossible, parce que ne plus se faire comprendre des Japonais, ça voulait dire rendre impossible tout traité de paix. Et le poids de Stimson était tel qu'effectivement, c'est Hiroshima qui a été bombardé et non pas Kyoto. Et je crois que ça a été une des très sages décisions de Truman, c'était de céder à Stimson.
Ce qui n'a pas vraiment été le cas en Allemagne, il n'y a pas eu ce genre de problème pour l'Allemagne.
Il n'y a pas eu ce genre de problème pour l'Allemagne puisque la défaite allemande était intervenue avant la mise au point technique de la bombe atomique. Sinon, le problème aurait existé. Oui.
Est-ce que le fait de préparer cette paix, est-ce que c'est pas cette paix est en fait de préparer la guerre? Est-ce que c'est pas le problème des conflits en ce moment en Irak, en Afghanistan? C'est-à-dire qu'en fait on a ni un adversaire, on ne sait pas pourquoi on fait la guerre, on n'a pas vraiment un adversaire et en fin de compte on ne prépare pas la paix. Est-ce que cet enlisement n'est pas dû en fait, on devrait relire les Grecs à ce niveau-là quoi?
Oui, je ne sais pas s'il est urgent pour les politiques de relire Héraclite ou Thucydide, mais il serait urgent pour eux, en tout cas, de s'apprendre dans leurs écoles de sciences politiques à détailler ou au moins éclaircir les termes du polémos, c'est-à-dire que s'attaquer à l'Irak ou s'attaquer à l'Afghanistan en dehors d'une réaction je dirais un peu épidermique, ça signifie quoi? Ça va vers où? Malheureusement, quand on regarde d'un peu près les motifs plutôt que les raisons d'ailleurs qui ont poussé à entreprendre ce genre de guerre, il ne reste que les motifs économiques, c'est-à-dire que la maîtrise de l'Irak était importante pour des questions d'approvisionnement pétrolier. Et puis on va s'apercevoir bientôt que probablement la maîtrise ou l'espoir de maîtrise de l'Afghanistan était important pour des questions de réserves de lithium qui sont les réserves les plus importantes de la planète en Afghanistan et qui évidemment seraient utiles pour les piles, les batteries d'ordinateurs, mais bon. Est-ce qu'il n'y a pas eu là un oubli un peu rapide du fait que, comme les Russes l'ont constaté, aucune armée au monde n'a jamais maîtrisé l'Afghanistan, qui lui-même est un pays que l'on peut dire à frontière géographique, mais qui n'a jamais été une nation.
Dans ces règles d'Héraclite sur le polémos, est-ce qu'on les retrouve dans d'autres civilisations en dehors de l'Europe, hein, sur cette notion de guerre?
Je crois qu'aucune civilisation extra-européenne n'a jamais imaginé de conflits portant sur des terres lointaines. Seuls les Européens ont navigué. Et en naviguant, évidemment, nous avons conquis des territoires. En conquérant des territoires, nous avons donné à la guerre une dimension qui est numériquement, techniquement et tactiquement beaucoup plus importante que les conflits entre ethniques qui étaient, disons, le lot général des civilisations non européennes.
Alors, on va passer, c'est à peu près le même sujet, mais il y a un texte dans ce numéro de crise d'Alain de Benoît qui explique qu'il y aurait une violence spécifique au monothéisme, passant quasiment de la violence à la haine. Est-ce que vous êtes d'accord avec Alain de Benoît? Est-ce que la religion, en fait, a fait changer les règles de la guerre?
Alors, la religion n'a pas fait changer les règles de la guerre, elle en a fait changer probablement les motifs. C'est-à-dire que le polythéisme est un état de culture dans lequel la pluralité des valeurs est reconnue comme une nécessité première. À partir du moment où vous entrez dans une religion de la vérité, en dehors de la vérité, il n'y a que la non-vérité. Et évidemment, l'opposition, non pas à l'égard d'une option parmi d'autres, mais à l'égard d'une non-vérité est infiniment plus violente que peut l'être une opposition à l'égard d'une option parmi d'autres.
Vous avez une question de Lucien Valdès. Lucien, c'est à vous.
Oui, je voudrais revenir à la figure d'Homère. Vous parlez au début de votre texte. Et vous en faites finalement le premier des pacifistes. Alors, j'aurais voulu que vous nous expliquiez un petit peu, que vous nous décryptiez cet Homère pacifiste que vous décrivez.
Alors, Homère avait contesté dans l'Iliade, je ne me rappelle plus exactement le passage, je ne l'ai pas en mémoire, mais enfin, il appelait de ses voeux la disparition de disputes, de polémos trop violents entre les dieux ou entre les hommes. Et au témoignage d'Aristote, on sait qu'Héraclite s'était opposé violemment à ça, en disant que l'annulation des opposés est quelque chose qui est strictement impossible. Il n'y aurait pas de jour sans la nuit et réciproquement. Il n'y aurait pas d'animalité sans les contraires que sont mâles et femelles, etc. C'est-à-dire que si la contrariété est qui est la source du conflit est contingent, on ne peut pas s'opposer à la contingence, c'est strictement impossible. C'est-à-dire que les vœux de pacification universelle sont des vœux qui sont des vœux d'une seule valeur possible, mais une seule valeur possible n'est pas possible pratiquement. Quelque chose que Julien Freund appelait l'irénisme des pacifiques. Il croit que seule la paix est une valeur, mais la paix n'est pas une valeur en soi. Elle n'a de valeur que si précisément son contraire est toujours présent comme potentiel.
Et c'est pour ça que vous renvoyez dos à dos finalement et bellicistes et les pacifistes.
Oui, les bellicistes, c'est-à-dire ceux qui mènent ce qu'on appelle une guerre politique, ne peuvent fonctionner qu'avec l'anéantissement de l'adversaire, c'est-à-dire le rêve de la paix par soi seul, quoi. Mais il n'y a pas de paix par soi seul. Si la paix n'est pas construite, ça n'est pas une paix. De la même manière que les pacifistes rêvent de la paix par soi seul. C'est la même utopie. L'une qui est violente et qui s'impose comme violente, et l'autre qui est non violente et qui se laisse imposer la non violence. C'était une des réflexions de Freund à sa soutenance de thèse lorsque comment il s'appelait, Jean Hippolyte, qui était membre du jury, lui avait dit, mais enfin bon, si votre thèse est exacte et si l'ennemi est nécessaire, moi qui suis pacifiste, que dois-je faire? Il ne me restait plus qu'à aller cultiver mon jardin. Et Freud m'avait répondu, mais si vous cultivez votre jardin, vous n'empêcherez pas l'ennemi. Ça n'est pas vous qui désignez l'ennemi. Si l'ennemi vous désigne, vous êtes obligé de prendre la chose en compte. Vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas.
Peut-être dernière question, il y a aussi la notion de neutralité. Vous en parlez un peu, est-ce que vous pourriez développer sur les fameux Méliens qui veulent être neutres vis-à-vis des Athéniens?
Alors, il y a eu dans les guerres du Péloponnèse dont nous parle Thucydide, de nombreux conflits entre les Athéniens et d'autres villes du Péloponnèse. Et il y a eu un jour une ambassade des Méliens qui sont venus discuter avec les Athéniens pour dire que nous sommes neutres dans le conflit qui suit, ce qui était la reconnaissance d'ailleurs d'une faiblesse interne. Et les Athéniens ont répondu que non, nous ne sommes pas d'accord. Votre hostilité, finalement, elle est plus avantageuse pour nous que votre neutralité, parce que si vous êtes neutre, c'est une preuve de notre faiblesse à l'égard de nos propres citoyens, alors que si vous êtes hostile, c'est la preuve que nos propres concitoyens ont quelque chose à défendre et le témoignage du fait que nous avons une certaine puissance. Donc nous décidons, nous, que vous n'êtes pas neutre. Et c'est ce qu'on appelle la désignation de l'ennemi. Les Méliens sont venus en pacifistes en disant nous ne sommes pour rien dans la guerre qui va suivre ou la guerre actuelle, et les autres ont répondu mais si vous y êtes pour quelque chose, la preuve c'est qu'on le dit et qu'on le fait. Et là on revient, si vous voulez, au bref dialogue qu'il y avait eu entre Hippolyte et Freud à cette fameuse soutenance de thèse de 65. Ça n'est pas vous qui désignez l'ennemi, même si vous ne le voulez pas, l'ennemi peut vous désigner, auquel cas vous êtes dans le conflit.
Merci à vous. Allez-y, terminez.
La dernière guerre a montré cela, notamment avec l'invasion de la Belgique, l'invasion de la Hollande. Ce sont des pays qui ne voulaient pas être partie prenante à la guerre et qui l'ont quand même été, quel que soit leur choix. Ouais.
La Suisse en est un peu sortie quand même.
Pour des raisons.
Pour d'autres raisons.
Pour des raisons un peu différentes. C'est que quand on est le coffre-fort de tout le monde, on se trouve une position hors du conflit. Encore que, ils se rendent compte de ce que ça leur coûte dans leur propre identité.
Merci à vous, Jean-François Gauthier, pour votre éclairage. Une dernière question. Vous avez un livre en préparation en ce moment? Une actualité?
Oui, j'en ai deux, dont un en physiologie. Alors ça ne concerne pas du tout votre...
Non, pas du tout.
votre émission, et j'en ai un autre, alors, pour... qui se rapproche plus de ce que vous souhaitez, à propos des orientations philosophiques que prend la physique, notamment en physique fondamentale et en cosmophysique, deux domaines dans lesquels il y a une réapparition de l'universel et de l'ultime, ce qui est un danger extraordinaire, non seulement pour la culture générale, mais aussi pour la physique elle-même.
Bon, écoutez, je vous crois sur parole. Merci à vous.
Une autre fois.
Merci beaucoup.
Lucien, bonne soirée,
Jean-François Gauthier. Donc, nous allons faire une petite pause, une toute petite pause musicale, et nous allons retrouver notre deuxième partie pour d'autres invités et pour d'autres annonces, et bien sûr l'actualité européenne qu'on verra en troisième partie avec Philippe Ristel. Toujours dans les chroniques de la vieille Europe, sur Radio Courtoisie, toujours avec Lucien Valdès et Philippe Ristel. Lucien Valdès, je vais vous donner la parole car vous allez nous parler d'une nouvelle revue. Et c'est sur quoi? C'est sur la guerre. C'est bien ça?
On va suivre notre thème.
Ouais.
C'est en fait un nouveau magazine qui s'appelle La Voix Stratégique. Guillaume Martin en est le directeur de publication.
Et au miracle, on va l'avoir au téléphone, c'est ça?
Exactement.
C'est formidable. Mais vous avez peut-être quelques mots à nous dire avant que... Guillaume Martin, vous nous entendez?
Oui, tout à fait. Bonjour.
Bah, écoutez, bonsoir et puis merci de votre visite par téléphone sur Radio Courtoisie. Lucien Valdès, je vous laisse interroger notre ami Guillaume Martin sur cette nouvelle revue.
Exactement. Puisque, Guillaume Martin, vous êtes le redirecteur donc d'une nouvelle publication, enfin d'un nouveau magazine qui est disponible en kiosque, qui s'appelle La Voix Stratégique. Alors, dites-nous tout sur ce nouveau magazine, dont le premier numéro disponible, donc je l'ai dit en kiosque, est consacré à l'Afghanistan. On y revient. Oui, avec, je le note, un entretien de l'excellent Meriadec Raffré, qui nous avait fait l'honneur, vous en souvenez, Patrick.
De venir dans notre émission, exactement.
Exactement. Alors, Guillaume Martin, pourquoi avez-vous lancé la voie stratégique et à quelle nécessité cela répondait-il ?
Alors, en fait, nous avons lancé la voie stratégique magazine. Afin d'offrir aux lecteurs intéressés par la guerre et les opérations militaires, qu'ils soient professionnels ou amateurs, un magazine traitant des conflits modernes, mais à travers le prisme des stratégies et des tactiques passées et actuelles. C'est-à-dire, en fait, le but des articles, qui je trouve qu'ils sont courts, précis et faciles d'accès, afin d'informer et de divertir, mais sans tomber dans la vulgarisation tout de même. On explique des techniques de combat, par exemple, mais avec des mots que tout le monde comprend. C'est un peu l'objectif, quoi. C'est-à-dire que c'est se placer entre des magazines de vulgarisation et des magazines très techniques, pas techniques pour le plus grand nombre, en fait.
Alors, dites-nous quels sont les thèmes que vous avez abordés pour ce premier numéro.
Alors, ce premier numéro, comme c'est un spécial Afghanistan. On parle de l'Afghanistan tel que du conflit actuel, mais justement on prend comme référence des événements historiques aussi, pas seulement, mais aussi car l'histoire nous rappelle toujours que des choses que l'on oublie un peu trop facilement. Et donc par exemple pour ce premier numéro, nous parlons de l'historique des guerres afghanes, en fait depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. On parle de géopolitique actuelle sur l'intervention américaine en Afghanistan, mais aussi bien de la géopolitique russe et au 19e siècle, par exemple, qui avait déjà créé un projet d'invasion de l'Afghanistan. Ensuite, nous avons l'entretien de Meriadec Raffré, qui est une très bonne analyse sur l'armée rouge, qui était dont il dit que les soviétiques avaient à innover ou à perdre. La preuve, ils ont perdu. Et ce genre de choses, d'ailleurs, s'applique à l'heure actuelle. Enfin, moi, je pense qu'il pourrait s'appliquer à l'heure actuelle aux penseurs de l'OTAN qui auraient à innover s'ils ne veulent pas perdre, justement, le conflit. Donc beaucoup de choses comme ça, en fait, où à la fois, il y a un mélange, on va dire, d'articles sur les conflits actuels ou récents, comme par exemple l'opération Enduring Freedom par les Special Forces US en 2001, par exemple, pour prendre l'Afghanistan contre les talibans. Et par exemple aussi un excellent article du rédacteur en chef Laurent Chang sur la bataille de Maïwand en 1880, où les Britanniques se sont fait tailler en pièces par les Afghans, justement.
Oui, Laurent Chang...
Que nous avions aussi reçu, c'est incroyable.
Exactement, c'est incroyable. Nous avons reçu pour son livre Kriegspiel 2014, vous vous en souvenez, j'espère. Ouais, ouais.
cette revue va être mensuelle. Est-ce que vous avez la... Est-ce que
non, vous... elle va être bimestrielle. Elle va être parue tous les deux.
Ah oui, en fait. Donc elle va être bimestrielle. Parce que c'est vrai que mensuelle, je me disais, il faut quand même pas mal d'actualité. En fait, le fait de faire cette revue, c'est aussi... Est-ce que c'est aussi d'expliquer peut-être à un plus large public les conflits actuels qui sont quasiment incompréhensibles pour, je dirais, l'auditeur ou le spectateur lambda quand il voit des morts en Afghanistan ou en Irak? Est-ce qu'il y a un peu cette idée-là de décrypter les conflits actuels?
Oui, tout à fait. C'est le but que des professionnels avertis de la question écrivent, mais avec des mots compréhensibles pour tout le monde, en fait. C'est vraiment le but, hein. Mais aussi à travers des articles techniques, on va dire, pour parler un peu plus pointu, pour à la fois généraliste, mais à la fois technique. Par exemple, nous avons plusieurs catégories. Nous avons une catégorie géopolitique, une catégorie stratégie, une catégorie opération et une catégorie tactique. Donc on va de plus en plus dans du plus loin au plus près, et à chaque fois avec des articles de manière pour décrire les choses générales pour que tous les gens le comprennent. Critique aussi, parce qu'on est quand même on prend un certain parti, on va dire. Hein, on n'est pas pour
ça. Je vous rassure, on ne croit pas à l'objectivité, de toute façon, nous.
Voilà, ouais. Donc là, on est honnête à ce niveau-là. On ne fait pas les langues de bois, hein, mais on dit ce qu'on pense. Mais en montrant aussi les choses telles qu'elles sont, et du plus grand jusqu'au monde, d'une manière géopolitique, jusqu'au plus petit, de manière tactique, au niveau de la technique même de combat, en fait. Hein.
D'accord.
Dernière question, allez-y, Lucien Valdès.
Tout simplement, est-ce que vous pouvez nous dévoiler peut-être le prochain numéro?
Alors oui, donc, il y a quelques mots. Le prochain numéro, ça va être, c'est pas un spécial, mais ça va être un dossier consacré en fait à tout ce qui est le médical au combat en fait, tout ce qui est qui a un rapport tous les soins médicaux apportés aux blessés au combat et tout ça. Pareil au niveau opérationnel et au niveau tactique. Il y a aussi un article par exemple un article sur la campagne de Sars en 1939 par l'armée française. Et ce genre de choses, enfin, plein de petites choses comme ça intéressantes. Aussi un inédit de Laurent Chang, encore une fois, au nord de la Russie, en fait, lorsque les bolcheviks ont pris le pouvoir en 1917, il y a une petite province entre la Carélie et la Russie qui a fait sécession. C'est un petit inédit, un petit.
On reconnaît bien là la patte de Laurent Chang.
Laurent Chang, tout à fait.
qui est un spécialiste à la fois de l'Uchronie et de ces petits. De ces
micro-états.
Voilà, de ces micro-états. Et je pense que ça doit effectivement être passionnant.
Merci, oui. Guillaume Martin. Vous allez juste nous rappeler le nom de votre revue et à partir de quelle date exacte on peut la trouver en kiosque.
Alors, on peut déjà la trouver à l'heure actuelle, hein, c'est septembre-octobre, hein, le premier numéro. Et La Voie Stratégique Magazine, le nom du magazine.
Vous avez un site internet qui s'appelle lavoiestratégique.com.
Tout à fait.
Et possibilité de s'abonner ?
Et il y a possibilité de s'abonner, forcément à un tarif
préférentiel pour les auditeurs de Radio Courtoisie, non ? Vous nous faites un prix.
Oui, on fera un prix, voilà, qu'ils nous écrivent un mail et puis on fera un prix, il n'y a aucun problème.
Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup et puis on vous souhaite bon courage dans cette nouvelle aventure éditoriale. Merci Guillaume Martin.
Merci à vous. Merci bien, au revoir, bonsoir.
Donc, avant de passer à l'actualité européenne avec Philippe Christel qui bouillonne déjà dans son siège, en fait non, il bouillonne pas, Philippe Christel est en train de lire le journal, je voudrais signaler, et encore quelques minutes mon cher Philippe, je vais vous signaler la parution d'un livre remarquable, je l'ai trouvé, c'est une réédition, c'est Mythologie scandinave, légende des Eddas de Rasmus Andersson, aux éditions d'Heligoland, dans la collection Au Nord du Monde. Et alors, pour en parler, nous allons avoir au téléphone Pierre Bagnouls, qui a écrit la préface de cette nouvelle édition. Pierre Bagnouls, vous nous entendez ?
Oui, oui.
Merci d'être avec nous sur Radio Courtoisie. Alors, vous êtes le directeur de cette nouvelle collection Au Nord du Monde aux éditions Heligoland. Quel est le but de cette collection ?
Alors, le but de cette collection, c'est de creuser un petit peu la notion d'identité européenne, et notamment au niveau des pays du Nord, c'est-à-dire, la partie celte, la partie nordique, la Finlande, les pays baltes, et notamment de rééditer des œuvres qui aujourd'hui ne sont plus disponibles et qui pourtant donnaient un panorama assez complet de cette identité.
Alors, le premier livre de cette collection, je le disais, c'est Mythologie scandinave de Rasmus Andersson, ce livre qui était devenu introuvable. Enfin, je vous avoue que moi, je le cherchais pas, je le connaissais pas. Alors, il fut écrit en 1875 et sa première édition française date de 1886. Pourquoi l'avoir republié ? Quel était l'intérêt de ce livre ?
Alors d'abord, la première chose, c'est que j'avais beaucoup aimé le livre de Jean Mabir sur les dieux maudits, qui était une sorte de que sais-je sur la mythologie scandinave. Et il se trouve que dans sa préface, il mentionnait tout ce qu'il devait à l'ouvrage de Rasmus Andersson. Donc, comme je note systématiquement les livres qui me paraissent intéressants, je m'étais dit que si jamais à l'occasion je trouvais cet ouvrage-là, bah ça me permettrait d'en savoir peut-être un petit peu plus. Et donc je m'étais mis en quête de ce livre. Et j'ai cherché pendant, par intermittence bien sûr, mais pendant une bonne dizaine d'années, parce que le livre était complètement introuvable, on ne trouvait jamais.
Alors, et allez-y, continuez.
J'ai réussi à le trouver par Internet, aux États-Unis. Et à ce moment-là, je l'ai commandé et le livre m'a paru vraiment, promettre ce que j'avais espéré. Quoi.
Alors, Rasmus Andersson, et c'est un auteur qui est américano-norvégien, Alors, on a peu de renseignements sur lui. Pourtant, ce qui est stupéfiant, c'est sa connaissance de la mythologie. Mais c'est surtout... Je ne sais pas si c'est dû à la traduction ou au texte d'origine. Mais c'est remarquablement bien vulgarisé et dans le bon sens du terme.
Ouais, tout à fait. Ben, disons que Jules Leclerc était aussi quelqu'un qui connaissait bien la mythologie nordique et qui était un littéraire. Hein. Il a écrit plusieurs livres. Et je pense que effectivement sa traduction est de belle facture et c'est, j'irais, écrit dans la belle langue française du 19e siècle. Et c'est pour ça que c'est un plaisir de le lire. Et je dirais qu'il met en valeur toute la poésie qu'avait mise Anderson dans son livre.
Alors, bon, c'est vrai, comme on disait, Rasmus Anderson, on n'a pas grand-chose sur lui. Pourtant, il est l'un des premiers à avoir populariser l'idée que les Vikings furent les premiers découvreurs du Nouveau Monde, c'est ça ?
Oui, parce que lui-même était un universitaire, était un chercheur, et donc a popularisé l'idée que Leif Erikson était le découvreur de l'Amérique, et notamment il a aussi publié tout un tas d'ouvrages qu'il avait traduits de mythologie scandinave, des romans scandinaves et autres.
Bon, ben écoutez, très bien. Alors, pour trouver ce livre aux éditions d'Heligoland, on peut le commander, on le trouve en librairie,
Alors, on peut le commander sur Internet, sur www.edition-heligoland.fr.
Bon, ben très bien, monsieur Benyouls. Vous allez peut-être nous dire, au nord du monde, votre collection, quel va être le prochain, vous savez ?
Il y a forte chance que ça soit un ouvrage de Xavier Marmier, qui lui aussi est un auteur du 19e siècle, qui a été académicien et qui était notamment parti avec la corvette La Recherche faire un voyage d'expédition et de recherche dans les pays du Nord. Et donc il en a ramené un livre avec son témoignage. Cet auteur-là, donc Xavier Marmier, en a profité pour apprendre donc le norvégien, le suédois, etc. Et donc il a traduit pas mal de choses dans cette langue, quoi. Et donc ça sera le prochain ouvrage qu'on publiera.
Parfait. Alors avant de nous quitter, vous m'avez dit en préparant cette émission que vous aviez une revue en préparation. Peut-être un mot sur cette revue ?
Oui, alors il y a une revue en préparation donc qui va sortir fin septembre, début octobre, qui s'appelle « Figure de proue ». Et en fait, c'est une revue culturelle, littéraire, qui a la prétention en tout cas d'aborder des sujets toujours sur l'identité européenne, mais là je dirais l'identité européenne large, hein, qui reprenne la Grèce, etc. Et puis essayer de faire des textes de belle littérature, avec notamment des citations d'auteurs qui aujourd'hui ne sont plus connus, des textes que je rédigerai moi-même, une bibliographie assez conséquente, et le tout, j'irais, c'est d'essayer d'aller à la rencontre de lecteurs potentiels qui, malheureusement, avec les temps qu'on vit, c'est-à-dire qui accélèrent de plus en plus la course au temps, les gens n'ont plus le temps de lire, de se documenter, de se renseigner, et finalement la belle culture, on est en train de l'abandonner, et notre identité, on est en train de la perdre. Et cette revue a la prétention justement de donner de la matière pour ouvrir la porte d'un univers que petit à petit on oublie. Et en fait, c'est oublier nos racines, c'est oublier ce que nous sommes, et ça c'est bien, bien dommage. Donc voilà en fait le projet de cette revue, qui aura 40 pages, que je fais absolument tout seul. Et donc il y aura quand même des figures, des grandes figures dont je parlerai, et notamment des égides qui protégeront nos navigations, qui seront des auteurs que je citerai sur une page ou deux quand les textes sont magnifiques et que c'est de la grande littérature.
Le numéro 1 sortira à peu près quand ?
Début octobre.
D'accord. Bah écoutez, on mettra tout ça sur notre site internet. Je pense qu'il y aura une possibilité de le commander sur un site,
oui,
et on mettra aussi toutes les références des éditions Heligoland. Merci bien Pierre Benyouls pour cette présentation. Je rappelle le titre du livre que vous venez de sortir, c'est Mythologie scandinave, légende des Eddas de Rasmus Anderson. Vous en avez fait la préface. Merci à vous.
Merci, bonsoir.
Voilà, on a terminé cette deuxième partie. Donc on va pas faire de pause musicale parce que mon cher Philippe, on va passer de la mythologie scandinave quasiment à la Suède.
On va passer du mythe à la réalité en fait.
Voilà, c'est un peu ça. C'est un enchaînement.
Quel talent.
Mais c'était préparé parce qu'on prépare énormément nos émissions. On vous écoute, Philippe.
Oui, effectivement, puisque la réalité qui vient de poindre sous le ciel du Nord, c'est évidemment le résultat des élections législatives en Suède. Et pour la première fois, eh bien, le parti des démocrates de Suède, Sveriges Demokraterna, donc les démocrates de Suède, vient d'obtenir le résultat qui lui permet d'avoir des députés au Parlement, au Riksdag. Ces élections sont intéressantes à plusieurs titres. Premièrement, c'est parce que, ça fait jamais de mal de le souligner, c'est le plus mauvais résultat, le plus catastrophique résultat pour les sociaux-démocrates. Vous savez, ces fameux tenants de ce modèle suédois, cette espèce de vitrine de la social-démocratie sur les résultats de laquelle le soleil ne devait jamais se coucher. Eh bien, les sociaux-démocrates ont bu la tasse avec, même si la coalition de gauche talonne le centre-droit. Le centre-droit fait, lui, son meilleur résultat. Hein. Je rappelle que il est sortant. Le Premier ministre Fredrik Reinfeldt est en tête du gouvernement donc depuis 2006. Les conservateurs sont à quelques 30 000. On est en train là de dépouiller les 100 000 derniers bulletins de vote en Suède. Il manque quelques 30 000 voix. Il devrait manquer quelques 30 000 voix aux conservateurs pour avoir la majorité absolue. Et donc, pour la première fois, ayant passé le cap fatidique des 4%, les démocrates suédois viennent d'obtenir une vingtaine, 20 précisément, députés. Alors c'est intéressant à plusieurs titres. Premièrement parce que, bien évidemment, les conservateurs n'ayant pas leur majorité absolue, ils sont donc contraints à un numéro d'équilibriste. Comme évidemment, comme tout gouvernement européen qui se respecte, le Premier ministre Reinfeldt est soumis au diktat du terrorisme intellectuel du politiquement correct. Il a aussitôt annoncé qu'il était hors de question de faire quelque accord que ce soit avec l'extrême droite au Parlement, mais qu'en revanche, il se tournerait probablement vers le Parti des Verts, qui a bien évidemment fait campagne avec la gauche, ce qui ne manque pas de faire sourire évidemment Jimmy Åkesson, qui est le patron du SD, puisque, comme il le dit, si l'alliance gouvernementale négocie avec nous, c'est bon pour nous. Si elle ouvre des négociations pour former une majorité avec le Parti des Verts, leurs électeurs leur feront payer. Bref, la machine est enclenchée. Le deuxième sujet, c'est que nous constatons en Suède, là encore, une mue impressionnante en quelques années d'un parti conservateur, nationaliste et très soucieux de freiner l'immigration, de durcir la politique criminelle et puis d'une réorientation des aides sociales pour une meilleure aide aux personnes âgées, aux jeunes, aux familles, etc. etc. Son chef, donc j'ai cité son nom, Jimmy Åkesson, il a 31 ans. Il a une tête de gendre idéal et il a réussi en quelques années à transformer ce mouvement qui c'est un petit peu comme tous les mouvements nationalistes, c'est créé comme amalgame de différents éléments plus ou moins sulfureux, plus ou moins ceci, plus ou moins cela, plus ou moins folklorique. Enfin, on a tous connu ça. Eh bien, aujourd'hui, ça y est, le SD est arrivé à la place qu'il vise. Son rêve est très clair au SD, c'est d'obtenir le même rôle que l'extrême droite du Danemark. Vous le savez, on en parle souvent, ce parti du peuple danois qui fait 10-12% des élections de manière régulière et qui sert depuis 2001 de soutien parlementaire fidèle au gouvernement minoritaire libéral-conservateur et, ce faisant, qui réussit à l'influencer fortement, notamment en ce qui concerne le durcissement de la politique d'immigration. Nous avons abondamment dit plusieurs fois qu'il y avait plusieurs manières de faire de la politique nationale. Il y avait la protestation stérile et il y avait savoir prendre et tenir son rang et tenir sa place, soutenir et influencer. C'est de loin ce qui est le plus efficace. Puis pour le clin d'œil, et je trouve que les Danois ont de l'humour, le Parti du peuple danois avait délégué un observateur, un de ses députés, le député Espersen, à la soirée électorale du SD, et qui dit « Bah écoutez, la victoire de Sveriges Demokraterna marque le début de la normalisation en Suède. La Suède a fait un pas vers l'Europe. » Je trouve que c'est assez drôle. On entend généralement dire que quand il y a des victoires de partis de droite, on s'éloigne de l'Europe, de cet idéal européen qu'on a bien vu porter à bout de bras la question des Roms. Eh bien, non, là, c'est l'inverse. Je trouve que ça ne manque pas de sel. Avec, là encore, un parti national respectable, crédible, qui investit un Parlement national, la Suède se rapproche de l'Europe. C'est comme ça que nous le verrons, nous aussi.
Il faut dire que sur la Suède, je me suis amusé à chercher sur Internet toutes les problèmes qu'a pu avoir la Suède depuis 2 ou 3 ans. Il y a, contrairement à l'image d'Épinal, on n'a pas affaire que à des grandes blondes et des grands blonds qui nagent dans des lacs. Il y a une forte immigration en Suède. Il y a énormément de problèmes. Quand on est arrivé, alors j'ai trouvé ça, enfin, drôle, je ne sais pas si c'est drôle, que dans certains quartiers, les Suédoises blondes sont obligées de se teindre les cheveux pour ne pas être violées. Donc c'est assez hallucinant. Et on s'aperçoit que dans une ville comme Malmö, que je ne connais pas spécialement, sur 23 000 habitants, il y a 170 nationalités différentes, avec une écrasante majorité de ressortissants de pays en proie à la guerre et au conflit. Ça, c'est les Suédois ont reçu énormément de réfugiés de l'Irak, de l'Afghanistan, de la Palestine, de la Somalie. La proportion d'habitants sans emploi frôle les 90%. Donc la belle image d'Épinal de la Scandinavie, là, c'est un peu écroulé.
Non, mais c'est QFD. Dans les autres sujets que je voulais aborder avec vous, parce qu'ils méritaient d'être soulignés, je vais en citer un qui va vous surprendre, mais je voudrais qu'on marque un point d'attention à l'extraordinaire succès de la visite du pape Benoît XVI en Grande-Bretagne. Je dois dire que...
Je n'ai pas trop suivi encore, mais si c'était un succès, allez-y.
Oui, donc on a tout dit sur le fait que cette visite était allait se dérouler dans un climat de tension, parce que en Grande-Bretagne comme ailleurs, il y avait les vieux relents sur les problèmes de pédophilie. On a vu que tous les groupes libéraux anglais se sont mobilisés, les homosexuels, les ceci, les cela, etc. On a dit que les anglicans ne l'accueilleraient pas, puisque le Vatican a dernièrement déclaré qu'il était prêt à accueillir sous certaines conditions des anglicans en rupture de ban avec leur église, etc., etc. Et puis, on a glosé sur le coût de la visite papale, on a glosé sur le fait que l'église catholique d'Angleterre organisait des messes payantes, etc., etc. Résultat des courses, la visite est un succès, tout le monde le reconnaît. Les catholiques anglais se sont mobilisés en masse pour venir à ces messes payantes. Le pape a passé 4 jours sur place, et en plus avec une belle démonstration d'écuménisme avec Rowan Atkinson, qui est le patron des anglicans. Mais au-delà de ça, ce qui me paraît intéressant, c'est que ce pape fait le choix d'un christianisme de qualité au détriment d'un christianisme de quantité. Et je trouve que quand on voit les volumes, et c'était plutôt la thématique de Jean-Paul II, qui est l'Église catholique survivra au chaos sous-entendu et non exprimé, au chaos multiethnique du XXe siècle par le nombre d'âmes, ce n'est pas le choix que fait le pape Benoît XVI. Le pape Benoît XVI dit, ce qui m'intéresse, c'est la qualité de la foi, la qualité de la résistance au relativisme, la qualité de ce christianisme des origines et qu'on trouve dans les pays de la vieille Europe. Ce pape est un vieil Européen, il fait le choix de la vieille Europe. Passer 4 jours pour un voyage papal, avec les contraintes, avec sa santé, c'est quand même pas un fringant jeune homme, dans cette Angleterre qui est un des pays les plus sécularisés et où la population catholique est largement minoritaire, c'est un choix stratégique, c'est un choix de poser des actes, de poser des jalons, et il me semble que, quoi que nous pensions, enfin, quelles que soient les options philosophiques, spirituelles des uns et des autres, c'est un choix de vieil Européen, et c'est quelque chose qui sert le concept de vieille Europe, et j'avais envie de le souligner, et pas que pour vous embêter.
Est-ce que ça, pour vous, ça explique cette forme de propagande qu'il y a eu autour de ce voyage, parce qu'on n'a jamais autant parlé d'un voyage avant que le voyage ait eu lieu, en expliquant que ça allait être une véritable catastrophe?
Oui, et puis on est allé très très loin, c'est-à-dire que si vous avez suivi de près, enfin, on a la presse britannique a fait fuiter les conclusions d'une séance de, alors je vais le dire en anglais puisque c'était en anglais, une séance de brainstorming du Foreign Office, où les fonctionnaires se sont dit voilà qu'est-ce qu'on pourrait faire pour agrémenter la visite papale, et puis il y a une espèce d'ahurie du Foreign Office sortant d'Oxford et qui doit être bref, bon, enfin vous m'avez compris, qui a décidé qu'en fait on devrait on devrait distribuer gratuitement des préservatifs avec marqué « Save the Pope » ou je sais pas quoi, enfin un truc tout aussi astucieux. Donc évidemment, c'est grotesque. Mais on en a organisé les fuites à tel point que le Foreign Office a dû s'excuser officiellement auprès du Vatican. Donc il y a... enfin. Il suffit d'ouvrir les journaux et après avoir ouvert les yeux pour comprendre que depuis que Benoît XVI est pape et depuis le discours de Ratisbonne et depuis ses prises de position, il est systématiquement attaqué quoi qu'il fasse. Et on sait très bien que les rumeurs, les enquêtes et les sujets de pédophilie, en règle générale, couvrent largement des périodes et des prélats qui étaient connus et des sujets qui étaient connus, voire avérés publics à l'époque de Jean-Paul II, et que on s'en sert pour noyer et pour tuer le discours de Benoît XVI. Généralement, les ennemis de mes ennemis, les amis de mes ennemis. Enfin bon, vous m'avez compris.
On vous a compris, Philippe.
Benoît XVI est un vieil Européen. On l'avait dit quand il avait choisi ce fameux prénom de Benoît. Je trouve que sa visite en Angleterre le confirme, et je voulais le mentionner. Alors on va faire un saut un peu plus pas un saut quantique, mais on va parler de la Turquie, parce que dans la partie électorale de que nous surveillons sur l'ère grande européenne au sens large, hein, que les auditeurs ne se méprennent pas, nous n'avons pas rangé la Turquie dans l'Europe, mais c'est un voisin dynamique. Donc vous avez vu que le Premier ministre Erdogan et l'AKP, donc le parti islamiste, a soumis un référendum important le 12 septembre, référendum qu'il a gagné, et qui consistait en gros à modifier quelques 26 articles de la Constitution qui avaient été rédigés par la junte militaire en 82 et qui visait en gros à limiter, voire empêcher sur certains thèmes, les interventions dans la vie politique, de la justice et de l'armée. En gros, là encore, de continuer à faire battre en retraite le kémalisme, on va dire. Ce référendum a été donc gagné puisque 58% des Turcs ont voté en faveur de ces réformes avec un taux de participation de 77%. Donc la victoire est nette, il n'y a rien à dire sur le sujet. Ce qui est plus intéressant, il y a deux choses intéressantes. La première, c'est que ça s'inscrit dans une démarche très claire depuis une vingtaine d'années maintenant, et elle ne s'interrompra pas, de fermer la parenthèse kémaliste. Et on va se rendre compte que le kémalisme n'a pas été la révolution passant de l'ombre à la lumière, n'a été en fait qu'une parenthèse historique qui est tout près de se refermer. Je reviendrai sur ce sujet-là. Le deuxième sujet, c'est de regarder les votes. Qu'est-ce qu'on voit dans la nouvelle carte électorale turque? Là encore, il y a des choses qui sont à la fois lourdes de menaces et en tout cas d'intérêt en ce qui nous concerne. C'est que ce scrutin accroît considérablement les antagonismes entre les classes populaires et urbaines qui sont favorables à l'AKP, qui vivent dans les banlieues des grandes villes et dans l'Anatolie centrale, et le reste du pays, c'est-à-dire d'une part les bastions traditionnels des élites kémalistes, c'est-à-dire l'Ouest et le Sud, et là le nom l'a emporté clairement, mais aussi la région kurde, qui est dans l'est de la Turquie, et je ne ferai pas l'injure aux auditeurs de rappeler l'ensemble des conflits qui secouent cette région depuis maintenant un bon nombre d'années, et le risque que pèse sur cette région l'autonomie que prend de plus en plus le Kurdistan irakien. Et donc dans cette région-là, qui est soumise à de vives tensions qu'on n'avait pas connues depuis très longtemps, là encore, les appels au boycott qui ont été lancés par les partis officiels ou interdits kurdes ont été largement suivis. Pour vous donner un exemple, à Diyarbakir, qui est la capitale de la région, on a eu seulement 30% des électeurs qui se sont manifestés. À la frontière de l'Iran, le taux de participation a atteint 3%. C'est-à-dire que, dans un premier temps, ce qu'on peut comprendre de ce référendum, c'est que l'AKP continue de progresser et à un an des élections générales, c'est évidemment un résultat tout à fait intéressant pour l'équipe d'Erdogan, mais l'exacerbation des tensions est le révélateur de ce scrutin. Le deuxième sujet donc que je voulais aborder, c'est la fin du kémalisme. D'abord, si on fait un petit focus sur l'actualité turque, on pourra dire que depuis 2006, qui est la victoire électorale de l'AKP, avec dans la foulée un premier geste qui déclenche la colère d'Israël, puisque l'AKP décide d'accueillir le dirigeant du Hamas, Khaled Meshal, depuis un an et demi, on assiste à une succession de gestes très violents qui viennent briser la relation, pas séculaire, mais pluridécennale qui unit la Turquie et Israël.
Très forte, en tout cas.
Et en tout cas très forte, avec des accords militaires, avec du soutien, le rôle de la Turquie dans l'OTAN, que tout le monde connaît bien, etc., etc. Premièrement, c'est décembre de... Si je fais une brève chronologie de six événements qui me paraissent assez importants. Allez-y. Et quand on les met bout à bout, on voit qu'il y a, une ligne directrice, et ce ne sont pas que des coups de sang. Décembre 2008, la Turquie affirme que l'offensive israélienne sur Gaza rend impossible toute médiation turque dans les négociations entre Syrie et Israël. Deuxièmement, 30 janvier 2009, vous vous en souvenez, au forum de Davos, dans une conférence de presse commune, le Premier ministre turc, Erdogan, interpelle violemment le président israélien Shimon Peres à propos de Gaza, lequel Peres, qui n'avait jamais été habitué à être traité avec autant d'irrespect sur une scène internationale, reste totalement muet. Troisièmement, 11 janvier 2010, l'ambassadeur de Turquie à Tel Aviv est convoqué à la suite de la diffusion sur une chaîne de télévision turque d'une série populaire jugée antisémite par Israël. Et le 13 janvier, inversion, c'est Israël qui est contraint de présenter des excuses pour le traitement infligé à l'ambassadeur turc.
Oui, faut dire que l'ambassadeur turc a été vraiment humilié là pour le coup.
Israël a l'habitude d'humilier des ambassadeurs. Il est commencé par les nôtres, hein. Que je sache, c'est la première fois qu'il s'excuse. Exactement. Et qu'il s'excuse fissa, si vous m'autorisez ce barbarisme. Avril 2010, Erdogan, lors d'un discours officiel, parle clairement d'Israël comme de la principale menace pour la paix au Proche-Orient. 17 mai 2010, c'est l'accord sur le nucléaire signé par l'Iran, la Turquie et le Brésil, violemment rejeté par Israël. Indépendamment du contenu de cet accord, dont on peut penser effectivement qu'il pêche par naïveté, blablabla. Bref, l'enjeu de cet accord, c'est surtout de faire monter en première ligne trois pays qu'on aurait deux pays, surtout l'Iran et la Turquie et le Brésil, aux côtés de l'Iran. Et puis, bien évidemment, 31 mai 2010, c'est l'affaire de l'attaque du raid israélien grotesque contre le navire turc de la flottille humanitaire sur Gaza, avec la Turquie qui rappelle son ambassadeur et qui prévient Tel Aviv, je cite, de conséquences irréparables dans la relation entre les deux pays.
On aurait pu rajouter dernièrement l'interdiction de survol de la chasse israélienne en Turquie aussi.
Absolument. Alors, en fait, si on regarde effectivement cette nouvelle politique turque avec la nouvelle donne de l'AKP, on se rend compte, je le disais, que les islamistes sont en train de fermer la parenthèse kémaliste. Les signes précurseurs, c'était dans les années 90 avec la première élection d'un parti islamiste, hein, à l'époque ça s'appelait le Refa, et Erdogan n'était qu'un second couteau de ce Refa, un écrivain qui participait à la mouvance culturelle autour de ce parti. Donc là, c'était clairement afficher une rupture radicale avec le kémalisme, y compris d'ailleurs l'hostilité à l'Occident. Nous ne sommes pas occidentaux, nous ne sommes pas européens, nous ne voulons pas appartenir au club chrétien sous influence maçonnique qu'est l'Union européenne. Donc ça, c'était les premières positions des islamistes du Refa, avec des rêves un peu fous d'un grand marché commun islamique du Maroc à l'Indonésie, etc., etc. Les hauts dignitaires de l'armée turque y mettent le holà, et en 1997, les islamistes sont balayés, les néo-kémalistes reprennent le pouvoir. Et puis, effectivement, en 2001, c'est la création de l'AKP, c'est Erdogan. Et Erdogan, c'est une philosophie totalement différente sur la politique extérieure, puisque c'est bien évidemment se montrer favorable aux États-Unis, soutenir le marché, se rapprocher de l'Union européenne, assurer aux néoconservateurs américains le renforcement des liens avec Washington, le soutien dans un certain nombre de politiques, etc., etc. Un petit accro quand même qui témoigne du fait que Erdogan doit ménager sa base. Vous vous en souvenez, c'est en 2003 lorsque le Parlement turc refuse le transit des troupes américaines pour l'Irak, ce qui a été le premier véritable choc pour Washington, qui a compris que l'allié turc n'était pas aussi docile qu'un vague pays de l'OTAN d'Europe de l'Est. Et aujourd'hui, l'analyse que font que fait le gouvernement d'Erdogan, c'est que, qu'on le veuille ou non, les kémalistes n'ont jamais réussi à fondre dans une seule et même identité nationale les 15 à 20 millions de Kurdes, peut-être une vingtaine de millions d'Alévis. De la même manière, ils n'ont pas réussi à y agréger les Turcs où les turcophones qui sont originaires de l'ancien espace ottoman, tcherkesse, bosniaque, abkhaz, tout ce que vous voulez. Et donc, la thèse de l'AKP, c'est que le seul ciment commun possible, ce n'est pas la nation qui n'existe pas, mais c'est l'islam. Et du coup, à l'époque, enfin, c'est l'islam comme c'était le cas au temps de l'Empire ottoman. Et à ce moment-là, on se rend compte que c'est toute une politique dite de solidarité islamique que la Turquie veut utiliser à l'intérieur, mais également à l'extérieur, pour restaurer le prestige ottoman sur les populations musulmanes non turques de l'ancien empire. Donc on est aujourd'hui sorti d'une logique où les prédécesseurs d'Erdogan avaient constitué tranquillement avec les Américains une sorte de sphère d'influence néo-ottomane dans les Balkans, et c'est, on l'a bien vu avec la Bosnie et surtout avec le Kosovo. Maintenant, les islamistes turcs vont beaucoup plus loin, beaucoup plus à, et surtout beaucoup plus à l'est, avec une politique anti-israélienne et en construisant un prestige néo-ottoman sur un certain nombre de pays du monde arabe. On constatera d'ailleurs que dans le monde sunnite, en Arabie Saoudite, en Égypte, mais au Maroc, on commence à s'inquiéter sérieusement de la popularité des Turcs dans le monde arabe. Le pays qui est le plus inquiet, c'est évidemment l'Iran. Puisque là encore, la Turquie joue double jeu et c'est ça qui fait qu'elle peut continuer à marquer des points sur tous les sujets. Vu du point de vue des Américains ou des Israéliens, une Turquie qui remplacerait l'Iran dans le cœur de la foule palestinienne de Gaza, c'est presque mieux. Si demain... le porte-drapeau de toutes les frustrations du monde islamique et celui qui véhicule une nouvelle puissance, c'est la Turquie d'Erdogan, qui reste totalement incontournable pour un certain nombre de pour le monde occidental au sens large. Eh bien, ma foi, c'est toujours mieux que l'Iran. La Turquie, de son côté, suit donc une politique qui a d'ailleurs été théorisée, il suffit de lire les documents, c'était très simple, c'est son ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Ahmed Davutoglu, et dans la revue Foreign Policy du 20 mai 2010, il explique le principe d'une politique multidimensionnelle, bon jusque-là tout va bien, et il l'intitule la Turkey's Zero Problems Foreign Policy. Qui en français, c'est la politique du zéro problème. C'est ce qu'on constate en la Turquie atténue ses frontières, ses problèmes de frontières avec ses ennemis héréditaires. C'est le cas de la Grèce, on l'a vu clairement. C'est le cas de l'Arménie, avec la diplomatie du football, on en a déjà parlé. Et puis, c'est systématiquement ouvrir un jeu à plusieurs cartes, raidir la position vis-à-vis d'Israël, mais continuer à soutenir les Américains en tant que membres de l'OTAN avec des tentatives de médiation dans les grandes conférences sur l'Afghanistan, avec des tentatives de médiation entre Syrie et Israël, etc. etc. C'est vouloir se rapprocher de l'Europe, mais ne rien lâcher sur la pression qu'elle met sur l'ancien espace ottoman. C'est continuer à dire aux États-Unis qu'ils font partie de leur diplomatie pétrolière, mais c'est tout récemment autoriser le passage sur son territoire du fameux gazoduc South Stream, le gazoduc italo-russe et qui est concurrent du projet Nabucco européen, etc., 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 laisser construire par les Russes leur première centrale nucléaire, etc., etc. La Turquie montre qu'elle est au cœur de tous les sujets dans une logique de zéro problème. Et ce faisant, eh bien, elle est déjà membre du G20. Elle vient de passer en 20 ans du 28e rang au 17e rang économique dans le classement du FMI. Elle est devenue un acteur géopolitique majeur, on l'a vu avec la signature commune avec le Brésil de l'accord nucléaire avec l'Iran. Et elle se pose de manière incontournable au carrefour des relations entre Occident et entre Orient, en revenant clairement à son identité islamique à l'intérieur et à l'extérieur. Donc voilà ce que... pardonnez-moi ce long topo, mais il me semble que le référendum auquel nous avons assisté est un bon révélateur des grandes lignes de force de la politique turque aujourd'hui. Et je me permettrai sous forme de boutade, puisque les Européens sont très attachés à regarder à ce qui se passe en Turquie. En fait, ce à quoi nous assistons, c'est que les Turcs jouent la politique de leur civilisation. Point. Et j'aimerais bien que nous, Européens, nous puissions jouer celle de la nôtre. Mais c'est une autre histoire.
Comment vous expliquez le silence assourdissant des Américains ? On a l'impression qu'ils ont plus mainmise là-bas ?
Depuis un petit moment, on les entend plus.
Les Américains sont très embêtés pour deux raisons. La première raison, c'est que on le voit aussi sur la politique, sur la détente de la politique russe, c'est que clairement, un des bénéfices majeurs de la politique d'Obama, c'est une clarification des enjeux et une priorité dans les efforts à mener. Et donc, les États-Unis, d'abord, mettent moins de pression pour obtenir moins dans cette région. De la même manière qu'ils ont, entre guillemets, lâché l'Ukraine et la Géorgie. On sait très bien maintenant que c'est fini. Ces deux pays, dans les 10 ans qui viennent, n'adhéreront pas à l'OTAN. Et donc, il y a quelque chose qui allège le poids qui pèse sur la Russie. Je pense que de la même manière, les États-Unis sont extrêmement inquiets de la situation en Afghanistan, j'enfonce des portes ouvertes. Ils essayent de se sortir les poules sur la pointe des pieds en Irak. Il ne s'agira pas de contrecarrer quelques projets que ce soit de la Turquie, notamment sur la zone kurde, pour éviter de déstabiliser l'ensemble. Ils sont quand même relativement inquiets du jusqu'au boutisme et de la stratégie de la tension que fait régner Israël avec la colonisation et l'impossibilité d'un règlement du problème palestinien et tout simplement comme on l'a dit plusieurs fois, je pense que les États-Unis sont en manque d'une stratégie de rechange. Le sujet aujourd'hui c'est l'Afghanistan. Le sujet aujourd'hui c'est de toute façon, continuer à faire vivre ce soutien indéfectible à Israël, qui continuera à être ce soutien-là tant que la politique américaine sera autant dépendante des lobbies qui la traversent. Mais c'est aussi l'accroissement fondamental de la puissance chinoise. Vous avez vu que pas plus tard qu'hier, on a de nouveau une montée de tension avec un chalutier chinois qui a été arraisonné par un bateau de guerre japonais parce que s'approchant trop près des îles, je ne sais plus comment, qui sont revendiquées par les deux pays, etc., etc.
Donc, il y aurait normalement certaines ressources pétrolières.
Et en plus, voilà. Bon, donc je crois que les
îles Senkaku.
Voilà, c'est ça.
Bravo, Lucien.
Je pense que les États-Unis sont en mal d'une stratégie de rechange, voire d'une stratégie tout court.
En tout cas, je vois que les gens nous suivent, le démontage du Kémaliste, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle. J'ai un trou de mémoire, on a invité souvent sur notre ami spécialiste, voilà, qui nous avait déjà démontré ce démontage de la part du gouvernement turc.
En anglais.
Alors, autre chose.
Oui, un autre sujet que, puisqu'on parle des États-Unis et donc vous avez dû constater pour ceux qui suivent les primaires des élections mid-term, c'est-à-dire que dans quelques mois, on va assister au renouvellement d'une partie du Sénat et de la Chambre des représentants. Et donc, dans le système à l'américaine, il y a toute une série de primaires pour désigner les candidats, des candidats républicains et des candidats démocrates. Et on voit toute une nouvelle droite conservatrice, rurale, traditionnelle qui s'exprime au travers de ce qu'on appelle les Tea Parties. Tea Party en référence à la Boston Tea Party qui était le premier geste des colons, des fermiers américains pour montrer leur velléité d'indépendance contre l'occupant anglais en 1778 où une série de colons s'étaient déguisés en indiens pour jeter dans le port de Boston des cargaisons de thé. Bref, longue introduction pour vous dire que il n'y a pas encore de Tea Party en Allemagne, mais ça ne saurait tarder. C'est intéressant de constater, d'observer une espèce de fronde conservatrice majeure qui menace, à mon avis, le parti chrétien-démocrate allemand. Vous avez vu, et on a abondamment parlé de l'affaire de Thilo Sarrazin, cet économiste, membre du SPD, membre du comité directeur de la Bundesbank, qui a, dans un essai retentissant, en gros, affirmé que les immigrés musulmans ruinent l'Allemagne et que l'Allemagne s'enfonce sur une pente déraisonnable qui lui fait perdre à la fois sa richesse, son confort, son avenir, sa sécurité et son âme. Bref. L'ensemble de la classe politico-médiatique, enfin la même que chez nous, a dénoncé avec horreur les propos de Monsieur Sarrazin, qui d'ailleurs ne s'est pas démonté. Mais surtout, la question frappe de plein fouet, bien évidemment, la CDU, qui, je vous le rappelle, est en coalition avec le FDP, les libéraux, et qui a quand même énormément de mal à servir ses propres électeurs. La chancelière Merkel a quand même
sur un certain nombre de sujets, plutôt mangé son chapeau ou en tout cas n'a pas tenu ses promesses. Elle a augmenté des impôts qu'elle voulait baisser. Elle a fini par aider la Grèce qu'il n'était pas question d'aider, ou en tout cas pas dans ses proportions. Elle maintient à peu près tout de la protection sociale coûteuse à l'allemande qu'elle s'était engagée à réformer. Elle va supprimer le service militaire obligatoire pour faire des économies. Elle favorise le travail des femmes alors que ça avait encore fait partie des piliers de la politique des chrétiens démocrates, etc., etc. Pour une partie de son électorat, ça commence à faire beaucoup. Et ça fait beaucoup aussi pour une personne tout à fait estimable que nous avons plusieurs fois, dont nous avons plusieurs fois cité les hauts faits, et qui s'appelle Erika Steinbach. Erika Steinbach est une députée de la CDU, mais elle est également présidente du BDV. Le BDV, c'est la Fédération allemande des expulsés de guerre. Vous le savez. Après 1945, quelques 15 millions d'Allemands ont été chassés de l'Europe de l'Est dans des conditions de violence inouïes, mais qui n'ont jamais intéressé quelques cinéastes, historiens ou quoi que ce soit, mais ça fait partie des victimes du mauvais côté. Bref, et donc le BDV a toujours été une puissance électorale importante, avec une influence forte dans la CDU et surtout dans la CSU. La députée Steinbach vient de démissionner des instances dirigeantes de la CDU pour deux raisons. La première, c'est que une fois de plus, elle a été mise en cause par un scandale médiatique polonais, tout simplement parce que, à l'occasion du rassemblement annuel de son mouvement le 11 septembre, elle avait répondu à une question en disant que, c'est quand même la Pologne qui avait déclaré la guerre à l'Allemagne et qui était à l'origine de la Seconde Guerre mondiale. Il fallait pas dire ça, visiblement, donc très bien, parfait. Elle a quand même reçu, au passage, le soutien du président de la CSU, ce qui n'est pas rien. Et surtout, l'inquiétude d'Erika Steinbach, c'est de dire « la CDU ne porte plus suffisamment les valeurs conservatrices ». Et d'ailleurs, Madame Merkel dénonce le livre de Thilo Sarrazin, mais, dit Erika Steinbach, ce que Sarrazin dit, c'est notre thème. Et d'ailleurs, selon un sondage, alors j'ai pas vu les sondages du côté de l'autre côté du Rhin, mais 56% des sympathisants de la CDU partageraient ces thèses, et le chiffre pourrait être plus élevé. Bref, ce que dit Erika Steinbach, c'est de dire « méfions-nous, je quitte les instances de la CDU dirigeante, mais pas le parti. Je pense, dit-elle, que quelqu'un qui aurait du charisme et qui créerait un parti réellement conservateur, un parti à la suédoise, à la danoise, comme ou à la Ligue du Nord, ou etc., etc., dépasserait sans peine la barre des 5% des voix et ferait vivre à la CDU ce que le parti de gauche Die Linke, qui s'est retrouvé sur un certain radicalisme de gauche, fait vivre au SPD, c'est-à-dire en fait de l'éloigner du pouvoir. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, du coup, là, toute une série de crânes d'œufs se sont penchés sur la question, et alors les conclusions de ces crânes d'œufs sont « les conditions objectives sont réunies pour un nouveau parti à droite de la CDU, mais pas les conditions subjectives ». Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire « oui, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui attendent que ça, mais il n'y a pas de leader charismatique ». On pourrait dire qu'il y a probablement aussi un vieux fond de mauvaise conscience qu'on n'oubliera pas de rappeler aux Allemands trois fois plus qu'aux autres. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on voit bien qu'il y a... On avait vu la Bürger Initiative qui avait fait perdre la mairie de Munich à la CSU. On a vu que cet électorat conservateur commence à se méfier des promesses non tenues d'Angela Merkel et de sa coalition au centre. Il se pourrait, là aussi, que, pour reprendre l'expression du député danois, peut-être un jour, l'Allemagne va-t-elle rentrer dans l'Europe. Moi, je pense que c'est toujours bon signe quand l'Allemagne rentre dans l'Europe, mais c'est une autre histoire.
Voilà, donc c'était l'affaire Sarrazin.
Particulièrement.
Il est en forme. Sur ce livre, ce qu'on a pu remarquer, c'est que la presse allemande a été beaucoup plus partagée et sur le livre de par rapport à une certaine époque, je peux vous assurer que le livre de Thilo Sarrazin ne serait même pas sorti. Donc on voit bien qu'il y a aussi du changement à ce niveau-là.
Oui, et puis Thilo Sarrazin n'est pas n'importe qui, hein. C'est quelqu'un du SPD.
Du SPD. Il vient pas de la partie de Skinhead qui a écrit
un livre de coloriage. Il était membre du conseil de gouvernance de la Bundesbank. Et je peux vous dire qu'il y a quand même, s'il y a un truc qui est sérieux en Allemagne, bon, tout est assez sérieux en règle générale. Enfin, il y a quand même un truc sérieux parmi les trucs sérieux. Oui. C'est la Bundesbank, hein.
ce qui enlève un peu ce mythe qu'on a vu il y a quelques mois
la Coupe du Monde de football avec cette Allemagne qui était soi-disant fière de cette équipe.
La Mannschaft.
Voilà, multiculti à l'image du pays qu'ils avaient un peu inventé. Ça rappelle un peu l'esprit de l'arnaque de l'équipe Black Blanc Beur en France, quoi. Donc voilà.
Philippe, autre chose.
Oui, écoutez, il y a plusieurs choses dont je voulais vous raconter, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je voulais partager. Donc, c'est pas un sujet totalement glamour, mais je voulais partager avec vous une intervention tout à fait intéressante du patron de ADS, qui est Louis Gallois. Donc, Louis Gallois, on le connaît, grand serviteur de l'État, mais également grand dirigeant d'entreprise. On l'a dit, chevènementiste. Enfin, on voit bien qu'il est dans ce courant. Colberto, Souvreno, social, bon, bref.
Il rassure les politiques, en général.
Et alors, il s'est exprimé devant la Fondation Respublica sur une question qui était de dire, écoutez, monsieur Gallois, qu'est-ce que vous pensez des perspectives de l'industrie française? Et donc, comme on est en plein débat sur la crise, sur les délocalisations, sur le poids de l'industrie dans un secteur économique, sur le poids de l'industrie dans un pays, sur les risques de la désindustrialisation, il a livré un certain nombre d'éléments et je trouve qu'il y a un certain nombre d'exemples et de chiffres qui me paraissent devoir être partagés avec nos auditeurs. Premièrement, ce qu'il dit, c'est que contrairement à une idée répandue, la France est engagée dans un processus de désindustrialisation au moins aussi fort que l'Angleterre, dont on dit qu'elle a laissé filer son industrie et qu'elle n'a plus que la finance, et patati et patata. Pour vous donner un exemple, l'industrie représentait 22% de la valeur ajoutée en 98, c'est 16% 10 ans plus tard, alors qu'en Allemagne, cette part a augmenté, et la France, c'est le pays qui a connu la plus forte baisse de l'ensemble de l'Union européenne, et au point d'être actuellement au niveau de la Grande-Bretagne. Ça, c'est la première chose, ce qui pose quand même un petit peu le constat. Alors, Gallois présente un certain nombre d'éléments qui expliquent pourquoi. Première chose, il y a des choses qu'on connaît. Par exemple, le fait que l'industrie française n'a pas de spécialisation internationale prestigieuse. C'est-à-dire que, hormis quelques domaines très de haute technologie comme l'aéronautique, mais ça durera pas parce que tout le monde s'y met. Pour le reste, nous n'avons pas de secteur où nous sommes totalement spécialisé, ce qui fait donc que nous sommes totalement soumis aux fluctuations de prix, et comme on a une monnaie forte, nous sommes pénalisés là-dessus. Deuxièmement, le temps de travail, alors on est en plein débat sur les retraites, le temps de travail annuel n'est évidemment pas adapté en France, puisque il rappelle que la durée de vie active des Français en nombre d'heures de travail reste la plus courte d'Europe, peut-être même du monde. Pas forcément en heure annuelle, mais quand vous comptez sur une vie professionnelle, les Français sont ceux qui rentrent les plus tard. En gros, tout le monde étudie jusqu'à 32 ans maintenant. Et ils en sortent le plus tôt, puisque à 55 ans, ils sont jetés par les entreprises. Bon. Donc, deuxième élément, le temps de travail global des Français. Troisièmement, on le connaît, c'est évidemment la fiscalité qui écrase beaucoup plus qu'ailleurs. La part entreprise écrase beaucoup plus qu'ailleurs en France. Quatrièmement, c'est la structure des entreprises. Là encore, pour comparer, la France compte 4000 entreprises de 500 à 5000 employés. L'Allemagne en a 16 000. Donc ça veut dire que le tissu des petites entreprises françaises est trop faible. Du coup, elles sont largement sous-capitalisées. Pas besoin de vous faire de dessin. Une entreprise sous-capitalisée, c'est une entreprise qui ne peut pas investir, qui ne peut pas lever et donc qui ne peut pas faire face aux innovations technologiques et donc qui ne peut pas maintenir un avantage compétitif. Autre élément aggravant, c'est la déconnexion de la recherche publique et de la recherche privée. Contrairement à l'idée répandue, on a en France une recherche publique assez puissante, assez efficace, une recherche privée très faible, mais zéro connexion entre ces deux types de recherche. Et puis, il y a également, ça c'est pour le psychologique, il y a chez nos concurrents des volontarismes absolument incroyables. Les Coréens ont décidé qu'ils seraient leaders dans l'automobile. Hyundai est devant Toyota. Ils ont décidé qu'ils seraient présents sur les biens de consommation électronique. Samsung et LG sont devant Sony. Demain, c'est le Brésil, le Vietnam, la Russie, la Mexique qui seront dans l'économique, etc., etc. Tandis que nous, en France, le mot industrie, je suis sûr, on fait un sondage dans la rue, rime avec pollution, avec conditions de travail inacceptables et suscite en permanence des capacités. Et donc, ce que dit... Et puis, dernier exemple pour illustrer ça...
Rapidement, Philippe.
Oui, Gallois nous dit que l'industrie aéronautique recherche près de 12 000 ingénieurs par an. le travail, le marché du travail européen n'en propose que 9000. À Supaéro, qui est la grande école, la majorité des jeunes diplômés s'orientent dans la finance. Et une minorité fait de l'aéronautique. Donc aujourd'hui, on a un système où on détourne les gens de l'industrie pour les inciter à faire des produits financiers structurés. Il me semble que ça pose un certain nombre de problèmes. Alors évidemment, du coup, je vais passer vite sur les solutions. Ça m'embête de passer vite sur les solutions, mais j'ai pas le choix. Donc évidemment, il y a cette notion de relais européen, et c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une critique radicale de Gallois, de la Commission de Bruxelles, du libre-échange. C'est intéressant parce qu'il dit « Je ne remettrai pas en question le libre-échange et je tiendrai les propos convenus sous l'ouverture des frontières, mais il faut savoir que si on avait écouté Bruxelles, Alstom n'existerait plus, ils nous ont dépouillé Pechiney, ils sont incapables de tenir la réciprocité Airbus-Boeing, etc. etc. » Il y a derrière une véritable interrogation sur le nécessaire rééquilibrage des rapports dans l'entreprise entre le capital et le travail, la rémunération des actionnaires, mais également le développement de l'emploi salarié. Enfin, il y a un certain nombre d'idées qui nous paraissent des idées de bon sens, mais qui sont des idées neuves. En tout cas, il y a un discours structuré sur la politique industrielle qui nous change des coups de menton présidentiels.
Merci à vous, Philippe Christel. Merci, Lucien Valdès. Voilà, c'est la fin de notre émission. On se retrouve dans 4 semaines. Bonne soirée à tous, bien sûr, sur Radio Courtoisie.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal.